Chapitre 5. D'une enjambée, il franchit les marches qui font communiquer l'étude avec le cabinet, et devant lui, il trouva Madame Courteheuse les bras ouverts. Elle se jeta à son cou. « Viens !» dit-elle passionnément. Il répondit à son étreinte, mais presque aussitôt il voulut se dégager. « Tu sais !» dit-il. Elle lui mit la main sur la bouche. « Je ne veux rien savoir !» « Mais, quand avec tes doigts tu me fais signe que tu serais seule à 11 heures, j'ai envoyé Célanie faire une course qui ne peut pas lui prendre moins de 3 quarts d'heure. Je t'ai entendu pousser le verrou de l'étude. Moi, je vais fermer les portes sur la cour et sur le jardin. La maison est à nous, nous sommes libres, on ne peut pas nous surprendre, profitons-en. Plus tard, tu me raconteras ce que tu veux et moi aussi je te dirai toutes sortes de choses. Viens !» Pendue à son cou, marchant sur la pointe des pieds, serrée contre lui, elle l'entraîna dans le salon dont la porte était restée ouverte et le fit asseoir près d'elle sur un divan. « Embrasse-moi !» Il avait été surpris par cet élan passionné alors qu'il s'attendait à des explications et à des racontages. Mais puisque les portes étaient fermées et que leur tête-à-tête semblait assurée pour un certain temps, il n'allait pas se montrer le plus réservé ou le plus craintif. Ce fut elle qui, la première, prit la parole. « Une belle idée que j'ai eue de vouloir cette nuit faire un tour dans le jardin avec toi. Je te disais bien que cela me paraissait un peu fou. Est-ce que si cela n'avait pas été folie, défi, indépendance, quelque chose qui serre le cœur ou le fasse sauter, l'arrête ou le précipite à grands coups, je l'aurais voulu si fort ? Il y a 2 mois que j'étais férue de l'envie de faire le tour du jardin avec toi, à ton bras, la tête contre ton épaule, comme pour en prendre possession. Et il y avait des roses que je regardais pendant des heures, en m'enivrant de l'idée de les respirer avec toi, d'une même aspiration, au clair de la lune, dans la douceur d'une nuit d'été. Tu aurais accepté cette promenade lorsque je te la proposais, qu'en pleine lumière, tu n'aurais pas marché dans la plate-bande. En pleine lumière, ton mari, nous prenant pour des voleurs, pouvait nous envoyer un coup de fusil, ou bien, nous reconnaissant, nous l'envoyer plus volontiers encore. Ça, c'était l'excitant, le grisant. Mais, en tout cas, comme nous aurions marché en voyant où nous mettions les pieds, tu n'aurais pas laissé cette empreinte dans la terre. Alors, c'est moi le coupable. Peux-tu t'imaginer que je le pense ? Je veux simplement dire que les gens sages sont quelquefois pris par leur sagesse même, tandis que les audacieux sont sauvés par leur imprudence. C'est de la morale que je te fais pour l'avenir, afin que tu m'écoutes et que tu m'obéisses. Me permets-tu de te dire que je ne fais pas autre chose que t'écouter, et que depuis que nous nous aimons, je n'ai pas d'autre inspiration que la tienne, d'autre volonté que la tienne, que je vois par tes yeux, que je sens par tes sens, que j'aime ce que tu aimes, déteste ce qui te déplaît, que je crois ce que tu crois, que je suis ton reflet, un instrument dont tu joues et qui rend sous tes doigts les airs tristes, gais, tendres, qu'il te plaît d'en tirer. « Dis, dis toujours !» murmura-t-elle. « Certainement, je dirai toujours tant que tu voudras, précisément parce que je suis cet instrument, et que, si un piano a une âme sous les mains qui savent la faire chanter, il n'a pas de volonté. Mais crois-tu qu'il n'est pas urgent d'arrêter ce que nous devons faire, après l'aventure de cette nuit ?»« C'est la nuit du pas de chance, car si tu as eu le guignon de marcher dans cette plate-bande bêchée précisément de la veille, moi, en rentrant, j'ai été assez maladroite pour faire du bruit. Mais le certain est que j'avais perdu cette marche silencieuse de chatte aux pattes ouatées que tu m'attribues et que je m'y suis prise si mal que mon mari effaré est venu dans ma chambre. 10 secondes plus tôt, il me trouvait en train de me déshabiller. Je n'ai eu que le temps de prendre la pose du sommeil de l'innocence, ce que j'ai assez bien réussi pour qu'il s'en retourne tout doucement sans oser me réveiller. Ce matin, la suite de la malchance a voulu qu'il trouve l'empreinte de mon pied. Célanie vient de me dire qu'il croit à une tentative de vol. Malheureusement, car sais-tu ce qu'il va faire pour empêcher une nouvelle tentative ? Me demander de coucher dans la maison les jours où il reste tard à Rouen ? Tu plaisantes ! Est-ce que ça ne serait pas drôle et vraiment marital? Il va faire poser des appareils pour fermer le rez-de-chaussée et le premier étage à l'électricité. L'animal! Tu vois? J'aurais dû m'en douter. Quand, il y a un mois, nous avons vu ce système de fermeture chez M. Ferré, il en a été enthousiasmé. Dès ce moment, j'aurais dû prévoir qu'un jour ou l'autre, il voudrait l'appliquer ici. Il a dit à Boulnois qu'il allait envoyer de Rouen un électricien aujourd'hui même. Et tu ne voulais pas tout à l'heure que je te fasse de la morale sur les dangers de la sagesse et les avantages de l'audace. Il la regarda avec surprise. Je n'y suis pas. Quand, au commencement de nos rendez-vous, je quittais le lit pour venir t'ouvrir une fenêtre du kiosque, t'aider à monter et passer une heure avec toi, tu m'as sagement, prudemment représenté que c'était là une action d'une audace telle qu'elle touchait à la folie. C'était à toi seul que je pensais. Je le sais bien et ne conteste pas plus la sollicitude du sentiment qui t'inspirait que le raisonnable de tes craintes. Oui, mon mari pouvait se réveiller. Oui, il pouvait alors constater que je n'étais pas près de lui. Oui, il pouvait s'inquiéter, me chercher. Oui, il pouvait même venir jusqu'au kiosque. Tout est possible et cela l'était. Je l'ai reconnu. Mais toi, tu n'as pas voulu reconnaître qu'avec un homme dont le premier sommeil est aussi calme et aussi profond que celui d'un enfant, ses craintes de réveil étaient si faibles qu'elles devenaient négligeables. Une indisposition ne peut-elle pas toujours se produire? Eh bien, quand même il se serait réveillé, quand même il m'aurait cherché, cela le conduisait-il à nous surprendre? Il aurait allumé une bougie, n'est-ce pas, dont nous aurions vu du kiosque la lumière. La porte du vestibule était fermée par moi à ma sortie, il ne l'aurait pas ouverte de l'intérieur sans bruit. Avant qu'il eût traversé le jardin, tu aurais eu tout le temps de te sauver. Et quand il serait enfin entré dans le kiosque, il aurait trouvé une femme absorbée dans la contemplation du jeu des ombres sur la rivière ou celle de la chasse-lumière de la lune aux lueurs argentées. Je suis une femme assez poétique pour cela, il me semble. En tout cas, j'en aurais été une assez adroite pour embrouiller les choses de telle sorte qu'il n'aurait jamais pu s'arrêter à une certitude. Des soupçons? Oui, peut-être. Et encore. Elle dit cela avec la superbe confiance d'une femme qui sait par expérience qu'elle tient entre ses mains la clé des portes du doute et de la foi qu'elle ouvre ou ferme à volonté. Puis elle continua. Pas plus là-dessus que sur toute autre chose, je ne t'opposais de résistance. Tu voulais que j'eusse ma chambre et qu'il eût la sienne, je cédais. Et comme derrière ce que demandent les hommes, il y a toujours des hypocrisies de pensée, je m'arrangeais, si difficile que cela fût, pour changer des habitudes prises. Certainement, il ne devait pas être commode de persuader un homme qui n'a jamais ronflé, que par ses ronflements, il empêchait sa femme de dormir, et que, sous peine de la voir dépérir, s'étioler et finalement mourir de sommeil, nous devions avoir deux chambres. Cependant, comme tu voulais ce miracle, je l'ai réalisé. Il a gardé sa chambre, tandis que j'en prenais une voisine, d'où je pouvais sortir la nuit pour te rejoindre. Ce que conseillaient la raison et la sagesse était donc accompli. Toutes les précautions étaient prises. Pas toutes, tu le vois aujourd'hui. Parfaitement. Mais mettons qu'il n'en ait été pris aucune et que les choses aient continué comme elles se passaient lors de mes premiers rendez-vous, c'est-à-dire quand mon mari et moi avions une chambre commune. La chambre commune n'aurait pas pour vertu de l'empêcher, une fois l'empreinte constatée, de vouloir fermer sa maison à l'électricité. Non, sans doute, mais elle ferait que, la nuit où nous devons nous voir, je n'aurai, avant de sortir, qu'à allonger doucement la main pour relever le levier de l'interrupteur qui commande la sonnerie, de sorte que j'ouvrirai les portes sans que cette sonnerie fonctionnât. Comme, en rentrant, je n'aurai qu'à la baisser pour remettre les choses en état, et qu'à son réveil, il les trouva telles qu'il les aurait disposées avant de s'endormir. Tout cela se faisant sans bruit, avec une sécurité complète, ni peine, ni danger. Enfin, cela n'est pas. Malheureusement. Et je me demande comment, quand cette sonnerie sera posée, je pourrai sortir sans qu'elle se mette en branle. Il ne s'agira plus d'allonger la main pour lever ou abaisser le levier de l'interrupteur. Il faudra que, de ma chambre, je vienne dans celle de mon mari et que je fasse le tour du lit pour arriver jusqu'à l'interrupteur, qui ne peut être appliqué que sur le mur opposé à celui dans lequel est percée la porte qui met nos chambres en communication. Il est vrai que cette porte reste ouverte la nuit. Mais ce n'est pas tout de n'avoir pas à l'ouvrir. Comment faire ce voyage dans l'obscurité sans toucher à un meuble, frôler le lit et tomber juste sur le levier sans tâtonner? Les pattes de chatte aux pieds et aux mains ne suffisent plus. Il faudrait que je fusse capitonné, et encore. Si solidement qu'il dorme, j'aurai 90 chances sur 100 de le réveiller. C'est ce que je me suis dit quand j'ai entendu Boulnois parler de cette fermeture. Et voilà pourquoi tu m'as vu tout à l'heure si préoccupé. La première fois, tout ne serait pas perdu. Je m'en tirerais comme je me serais défendu s'il était venu me relancer dans le kiosque. Je voulais sortir pour prendre l'air. Puisqu'il est reconnu que je suis une femme nerveuse et fantasque, c'est bien le moins que ces infirmités me servent à quelque chose. Mais la seconde fois, mais la troisième. Alors, elle leva les bras et haussa les épaules par un geste d'impuissance. L'impossible! Tu admettrais que nous pouvons nous résigner à ne plus nous voir? Et toi? Ils se regardèrent, restant plus d'une minute les yeux dans les yeux sans parler. Brusquement, il l'attira en lui prenant les deux mains. Es-tu prête à tout pour que nous ne soyons pas séparés? Dit-il violemment. À tout! Eh bien, partons ensemble. Elle se jeta dans ses bras. Oh, comme tu as bien dit ça! S'écria-t-elle. Ne vois dans mes paroles que ce qu'il y a réellement, dit-il, l'élan et la sincérité de la passion. Jamais je n'ai senti comme en ce moment l'étendue, la grandeur, la profondeur de mon amour pour toi. Hier je t'aimais, c'est-à-dire que je ne pensais à toi qu'avec une émotion attendrie ou violente. Que le jour, la nuit, je répétais ton nom comme la musique qui s'impose à l'esprit, au cœur, à l'oreille. Hortense, Hortense, Hortense. Quand le moment de nous rencontrer approchait, j'étais enfiévrée, impatient, indifférente à tout, dans le rêve, la respiration suspendue. Quand nous nous quittions, je restais près de toi et n'étais plus qu'un être vague, quelque chose comme un hypnotisé, privé de raison, de volonté, insensible, inerte, vide. Mais la force des liens qui nous unissent, je ne l'ai éprouvée qu'à l'instant même, quand tu as paru admettre que nous pouvions ne plus nous voir. Certainement, pendant que mes yeux plongeaient dans les tiens, mon cœur a cessé de battre, tant était violente l'angoisse qui l'étreignait, et la main de la mort s'est posée sur moi. Comment as-tu pu imaginer que j'admettais cette possibilité alors que ces sentiments sont précisément les miens, avec cette différence que je n'ai pas attendue aujourd'hui pour me rendre compte de ce qu'ils sont? Du jour où tu es entrée dans cette maison, j'ai été à toi. Instantanément, j'ai senti que tu n'aurais qu'un mot à dire, qu'un signe à faire pour me prendre quand tu voudrais. Et que si tu ne disais pas ce mot, si tu ne faisais pas ce signe, j'irais au-devant. N'est-ce pas de la possession, la marque certaine que l'on est créé l'un pour l'autre? Tu dis que tout à l'heure, la main de la mort s'est posée sur toi quand tu t'es demandé si j'acceptais la séparation. Moi, j'ai éprouvé une angoisse pareille quand je me suis demandé si tu m'aimerais jamais, comme je voulais être aimée. Quel enfantillage! Celui d'une âme affolée par la passion. J'avais peur, une peur atroce, peur de toi, peur de moi. Tu ne sais pas que tu es arrivé ici, précédé d'une réputation qui ne devait pas me rassurer. Un soir, en revenant de Rouen, mon mari me dit « Je me suis laissé ce matin colloquer un maître clerc qui, je le crois bien, ne fera pas du tout mon affaire. C'est un garçon venant de Paris où il a fait son droit et son stage, mais il a surtout mangé l'héritage de sa mère avec des femmes. Je n'ai pas pu résister à son père qui m'a supplié de l'essayer au moins. Manger son héritage avec des femmes, quel prestige! Il me semble que cela n'était pas bien adroit de la part d'un mari. Dis que c'était idiot. Tu devines avec quelle curiosité j'attendais ce vainqueur parisien. Je te vis. Ma première impression fut celle que je t'ai dite. Je te trouvais beau garçon, répondant en tout, taille, démarche, expression du regard, timbre de la voix, le blond de la chevelure, la blancheur des dents, la fraîcheur des lèvres, à la conception idéale que je m'étais faite de l'homme de qui j'aurais voulu être aimée. Et tout de suite, je fus à toi, de cœur, d'esprit, de mon être tout entier, avec une intensité de désir qui m'effraya. Car il ne me suffisait pas, oh, mais pas du tout, d'être à toi. Il fallait que tu fusses à moi. Le voudrais-tu? Et si tu m'acceptais en une heure de surprise ou d'ennui, par politesse ou par distraction, saurais-je prendre assez d'influence pour te garder, de t'attacher par de tels liens que tu ne puisses pas les briser? Tu les vois, ces liens? À ce moment, je ne voyais rien, si ce n'est que, dans ma situation, le doute et la modestie s'imposaient. Qu'étais-tu? Le vainqueur parisien dont on racontait les amours. Qu'étais-je moi-même? Une provinciale que tu pouvais très bien trouver insignifiante au point de ne jamais abaisser tes regards sur elle. Comment pouvais-tu croire cela avec ta grâce endiablée, ta séduction capiteuse? Grâce endiablée, séduction capiteuse, c'est moral cela. Ou plutôt, et tant mieux peut-être, immoral. Mais pouvais-je savoir si je te plairais, irrégulière, bizarre et incomplète comme je suis, si peu semblable aux autres femmes, celles qu'on admire et qu'on aime? Disant cela, par un mouvement félin, elle baissa la tête et, avec un sourire d'ironie, elle laissa lentement glisser son regard sur sa poitrine et ses hanches. « Mais tu es la séduction même !» Si le mot n'était pas entièrement juste, au moins avait-il des parties de vérité, et ne pouvait-on la voir, qu'elle plût ou ne plût pas, sans être frappé par son originalité et son étrange personnalité. Son corps frétillant un peu couleuvre, un peu oiseau, portait une petite tête coiffée de cheveux noirs qui tombait en coup de vent sur de larges yeux verdâtres à l'expression grisée. La bouche vaste, le nez indéfinissable, si indéfinissable qu'avec le souvenir seul il était impossible d'en retrouver la forme, retenait la bonne volonté qu'on avait de la trouver jolie. Mais elle était bien autre chose que jolie, avec sa silhouette d'ombre si fine, si impalpable. Toujours vêtue de noir, d'un noir léger ou brillant, qui n'était ni dur ni triste, elle accentuait ainsi sa quintessence de chic, un chic parisien, disaient les Normands méprisants, mais qui était bien plus que cela, un chic d'époque qu'à elle seule, sans savoir et par intuition, elle avait créé. Au XXe siècle, il y aura des femmes de cette espèce. Aujourd'hui, elle était seule dans sa mode qui, sans paraître s'écarter avec exagération de celle du jour, montrait le lendemain jusqu'aux tendances du surlendemain. Et dans sa drôlerie singulière, elle effaçait les plus belles femmes par son imperfection même qui montrait l'inutilité des lignes pures en affirmant l'irrésistible de sa singerie et de son gentil air de vice aimable. « Tu sais, reprit-elle, qu'avant de te connaître, je n'ai pas été gâtée, excepté par ma mère, qui, quand j'étais gamine, me trouvait charmante et me déclarait une merveille. Mais j'avais 10 ans quand j'ai perdu ma mère. Au couvent, j'ai été diabolique, singesse, grotesque, un monstre. On me le répétait du matin au soir, non seulement les sœurs, mais aussi mes camarades. Quand je me suis mariée, ce n'était pas pour ce que j'étais que j'ai été épousée, mais pour ce que j'avais. Je suppose que mon mari ne savait même pas ma couleur. Depuis, quand il a commencé à me connaître, il a constaté avec ennui que je ne possédais rien de ce qu'il aime chez les femmes et que, ni d'un côté ni de l'autre, je ne ressemble aux gaillardes opulentes qui lui plaisent. Alors je suis devenue pour lui une araignée. C'est le nom dont il me qualifie dans les jours d'indulgence. Dans les mauvais, il brûle avec son cigare les vraies araignées sur leur toile. C'est pour lui un soulagement et une vengeance. Si l'on pouvait entendre ce qu'il dit tout bas, je suis sûre que c'est « sale bête ». Et il n'y a pas de doute que cela s'applique autant à moi qu'à ses victimes, sinon plus. Cela, tu comprends, ne devait pas me disposer à l'infatuation. L'accueil que m'ont fait ses amis et les quelques hommes que nous recevons ici depuis 3 ans que je suis mariée ne m'a pas prouvé, oh, mais pas du tout, que j'étais une femme irrésistible qui n'avait qu'à paraître pour traîner les cœurs après ses jupes. Femme, je ne sais pas seulement si, parmi ces hommes, il y en a un seul qui me considère comme tel. Petit animal bizarre, écureuil, ouistiti ou perruche, bébé jumeau, joujou dont on s'amuse parce qu'il est drôle au moment, oui, sans doute. Mais femme capable de ressentir la passion et capable surtout de satisfaire celle que j'inspirerai, non, non, certainement. Il semble que nous ne soyons pas de la même espèce ou du même temps, que je sois tombée de la lune parmi eux ou débarquée du pays de Gulliver. Que serais-tu, toi, qui arrivais ? Un ami de M. Courteuse. Je ne te connaissais pas, mais du jour où nos regards se sont rencontrés, j'ai senti que mes journées n'allaient pas continuer tristes, ennuyées, découragées, comme elles se traînaient depuis 3 ans, éternelles et vides, quand elles n'étaient pas exaspérées. Et je ne me trompais pas, je puis dire de toi que tu m'as donné la vie autant que ma mère, et que la femme que je suis aujourd'hui, celle qui a remplacé l'animal que j'étais avec des idées, des désirs, des joies, des sensations que je ne soupçonnais même pas, c'est toi qui l'as créé. Et j'accepterai que nous fusions séparés, je vivrai sans tes baisers, tes caresses, je retomberai dans le vide, dans la mort. Mais mon Antonin chéri, tu es fou d'imaginer cela. Eh bien alors, puisque tels sont nos sentiments, et cette aventure a cela de bon de les affirmer, quitte ton mari, partons. Tu me donnes ta vie, tu veux la mienne ? Oui. Si j'étais libre, tu voudrais que je fusse ta femme ? Oui, 1000 fois oui, je ne peux pas vivre sans toi. Pas plus que je ne le peux moi-même, mais libre, je ne le suis pas. Partons, tu divorceras. C'est toi qui parles ainsi ? Certes, il me déplaît de mêler ton mari à ce qui nous touche, mais enfin, tout le monde sait qu'il ne t'aime pas. N'est-ce pas ce que je viens de te dire ? C'est un coureur de filles, il a continué marié ce qu'il était garçon. Il aime les filles et n'aime qu'elles. Cela est notoire. Après ses dîners du vendredi à Rouen et ses stations à l'assommoir d'Alphonse, qui scandalisent ses confrères et l'empêcheront de faire jamais partie de la chambre, ce sont des bordées dans la rue des Cordeliers qu'on se raconte d'étude à étude. Une femme peut-elle demander le divorce pour l'infidélité de son mari ? Dans certains cas, qui, je le reconnais, ne sont pas les siens. Mais lui peut le demander pour la tienne. Et s'il fait condamner sa femme pour adultère, celle-ci peut-elle épouser son amant ? Cela dépend. Cela dépend de la question de savoir si la preuve de la complicité de l'amant résulte du jugement qui a admis le divorce. Non, le mariage est possible. Oui, il est impossible. Tu vois que je suis renseignée. Depuis que nous nous aimons, j'ai fait causer ceux qui étaient en situation de m'instruire. Sois certain que si mon mari faisait constater mon infidélité pour demander le divorce, il s'y prendrait de façon à ce que la complicité de mon amant fût prouvée afin d'empêcher notre mariage. Mais d'autre part, sois certain aussi que quoi que je fasse, il ne voudra jamais divorcer et que, si adroite que je puisse être, je ne l'amènerai jamais à me fournir des griefs suffisants pour que je puisse demander moi-même le divorce. Tu sais bien que c'est pour mes 120 000 francs de dot et les 300 000 que mon oncle Gibourdel doit me laisser un jour que j'ai été épousée. Si nous divorcions, il devrait rendre cette dot et renoncer à cet héritage. Ce à quoi, en homme d'argent qu'il est, il ne se résignerait jamais. Que nous partions, il me ferait reprendre par les gendarmes, ramener ici, et ce serait tout. Il est vrai que nous pourrions aller à l'étranger, mais avec quoi vivrions-nous ? Alors ? Alors il faut nous retourner, chercher. Si cette menace nous surprend, il n'est pas prouvé que nous ne pouvons pas lui échapper. Il faut étudier ce système de fermeture, voir s'il n'y a pas un moyen de le tourner. Tu es sûr que je t'aime, n'est-ce pas ? J'en suis sûr. De mon côté, je peux être certaine que tu es prêt à tout pour que nous ne soyons pas séparés. Prêt à tout. C'est l'essentiel, le reste doit être accepté avec patience. La semaine prochaine, M. Courteheuse a, n'est-ce pas, un inventaire à Sotteville qui durera plusieurs jours et pour lequel il emmènera M. Fauchon comme à l'ordinaire. Oui, mercredi. Eh bien, mercredi, nous aurons quelques moments à l'heure du déjeuner et nous déciderons, après réflexion, ce qui sera le mieux pour nous.